CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pardonner deviendra vite une nécessité ». Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Notre thème sur le pardon, un thème qu'on aime vers la fin en général. C'est toujours un petit peu douloureux le sujet du pardon, mais c'est nécessaire et comme on le dit dans notre thème, ça va vite devenir une nécessité. Et donc on va en parler aujourd'hui. Et Anne, tu vas nous présenter une belle rubrique flashback aujourd'hui.
Ouais. Je vais vous parler d'une et plutôt de deux femmes exceptionnelles. Et même d'une famille exceptionnelle.
Oh. Bon,
au fur et à mesure que je lisais l'histoire, je me disais c'est vraiment une famille exceptionnelle. Mmh. Donc la famille Tenenbaum, que certains peut-être connaissent plutôt parmi les aînés. C'est une histoire qui est peu populaire chez les jeunes, mais c'est une histoire qu'on a connue pas mal dans les années 80, 70.
Une très belle histoire.
Une très belle histoire de pardon, justement, d'un pardon impossible à donner, pourtant qui a été donné avec vraiment le témoignage de l'amour de Christ.
Et qui a donné naissance à un beau ministère.
Très beau ministère.
On a hâte d'y arriver, mais avant ça, on va parler de ce thème important avec toi Nadine dans la pensée du jour.
Alors aujourd'hui, le titre de ma pensée est « Le pardon me fait du bien ». Et vous remarquerez que dans mon titre, j'ai dit « Le pardon me fait du bien » parce que oui, vous qui pardonnez, êtes le premier récipiendaire des bienfaits du pardon. Le pardon, oui, va faire du bien à votre entourage, évidemment, mais avant tout, le pardon vous fait du bien à vous-même. Et voyez-vous, dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs situations où est-ce qu'on peut être appelé à être offensé. Les gens nous offensent. Si on doit prendre le temps de s'arrêter sur chaque comportement, sur chaque mot, sur chaque attitude, on verra que plusieurs occasions, des gens peuvent nous blesser. Et la plupart du temps, les gens qui nous offusquent le plus, qui nous offensent le plus, ce sont nos proches. C'est nos membres de famille, nos frères, nos sœurs, nos parents, les gens dans l'église, les gens avec qu'on côtoie de façon régulière, de façon avec beaucoup de proximité. Et si on ne pardonne pas, évidemment, il y a l'amertume qui se met au fond du cœur. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que quand on fréquente quelqu'un, étant donné qu'il est dans notre entourage proche, étant donné qu'il est avec nous tout le temps, quand on n'a pas pardonné, ben évidemment, on garde ça dans le cœur, mais on doit continuer à fréquenter la personne. On doit continuer à lui parler, on doit continuer à le voir à l'église. Ou si c'est nos parents, on doit continuer à être avec eux. Et donc, on garde ces non-pardons qui sont enterrés. Et plus qu'on en accumule, ben plus qu'on a de l'amertume dans le cœur. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont ont de l'amertume et ont des relations très, très difficiles avec les gens autour d'eux. Mais vraiment, je vous encourage à pardonner aujourd'hui. Je vous encourage à vous libérer vous-même, à vous faire du bien en pardonnant. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Vraiment, cette parole m'a beaucoup bouleversée la première fois que je l'ai entendue, parce qu'elle dit qu'on se prive de la grâce de Dieu quand on ne pardonne pas, quand on laisse l'amertume dans notre cœur. Et vraiment, il y a trois trucs principaux que je pourrais dire que le manque de pardon fait dans nos vies. La première des choses, c'est que le manque de pardon, avec le temps, magnifie l'offense et la rend plus grande que nature. Vous allez remarquer que si vous ne pardonnez pas, avec le temps, la chose qui vous a été dit, peut-être ça a commencé comme un petit grain, ça a commencé comme une petite parole, ça a commencé comme un petit geste. Mais à force de ne pas pardonner cette chose, ben, elle est magnifiée. Et à un moment donné, c'est comme si elle devient une grande montagne insurmontable. La deuxième des choses que l'amertume fait, par exemple, dans le cœur, c'est qu'elle nous piège dans un cycle perpétuel. On repense à la situation constamment, on repense à la personne constamment. Donc même si la personne n'est plus là, même si la situation est passée, l'emprise de cette situation demeure sur nous. L'état émotionnel qu'on rattache à cette situation demeure sur nous. La charge émotionnelle qui est attachée à cette situation demeure sur nous. Et nos comportements sont maintenant guidés par cette offense. Cette offense qui est déjà passée dicte les comportements présents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pardonné. Et la troisième des choses qu'on fait quand on manque de pardon, c'est qu'on devient prisonnier de ce domaine à cause de cette situation. Exemple, vous avez une relation qui n'a pas bien donné, la relation n'a pas abouti, et là, vous avez, à cause de ce manque de pardon, ben, vous dites « je ne ferai plus confiance à quelqu'un ». parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un m'a blessé auparavant. Mais ça, c'était une situation à part. Mais parce qu'il n'y a pas eu de manque de pardon, on met tout dans le même panier. Et vraiment, je vous encourage aujourd'hui à vous libérer par cela, à pardonner, parce que le pardon va vous faire du bien. Parce que ne pas marcher avec un cœur amer va vous faire du bien. Ça va vous faire évoluer. Parce que si vous pardonnez pas quelqu'un, ben vous restez... Vraiment, l'emprise de cette situation demeure sur vous et vous n'évoluez pas. Vraiment, aujourd'hui, je vous encourage à pardonner.
Merci beaucoup, Nadine. On a déjà parlé hein, du pardon sur ce plateau et on en reparle encore et on en reparlera encore. Parce que c'est toujours aussi important et c'est toujours aussi difficile pour certaines personnes à lâcher le morceau, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on peut vivre des choses qui paraissent tout à fait justifiées de dire bah non pour certains pardonner c'est comme effacer la faute de la personne, dire que finalement il est pas coupable, que rien n'a été fait, on met ça dans les oubliettes et puis ma souffrance on s'en soucie plus. Donc les gens choisissent de garder leur pardon se disant que finalement ça va faire souffrir l'autre. Et comme tu l'as dit dans ta pensée, même le titre de ta pensée, le pardon nous fait du bien premièrement à nous.
C'est ça.
Et c'est tellement important de comprendre ça. Notre verset du jour qui est dans Matthieu 6, 14 dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Donc on voit là aussi un bénéfice direct du pardon qu'on accorde aux autres et qu'on reçoit nous-mêmes en retour. Donc juste pour ça, même si c'était que pour ça, combien c'est important de vouloir et de décider d'accorder le pardon aux autres. Mais Nadine, pourquoi c'est si important de pardonner? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme raison qui font qu'on doit pardonner?
Je peux poser une raison. La première des choses que je crois dire, c'est que quand on pardonne, c'est important de pardonner parce qu'il faut qu'on se rende compte que nous aussi, nous sommes faillibles. Nous aussi, nous avons mal fait. Nous aussi, il y a eu des moments où est-ce qu'on n'a pas eu les bons mots, on n'a pas eu la bonne attitude. Et de ne pas être cette personne qui est tellement, qui a un jugement très dur face aux faiblesses des autres, mais qui s'octroie à lui toutes sortes de largesses. C'est Jésus qui dit que comment tu peux dire à ton frère que tu veux ôter la paille dans son œil si, alors que tu as une poutre dans ton œil. Mm-hmm. Tu es hypocrite, tu dois premièrement ôter la poutre dans ton œil. Et je crois qu'il y a plusieurs situations. Oui, il y a des choses extrêmes, graves, mais la plupart des cas de non-pardon, c'est dans des attitudes, c'est dans des gestes. Et si on se rend compte que, ah ben tiens, moi aussi, ça m'est arrivé aussi de peut-être pour cette personne-là, j'ai pas bien agi ou j'ai pas bien parlé. Si Dieu devait mettre à la lumière toutes mes pensées ou toutes mes actions, j'aurais aussi de quoi rougir. Ouais. Alors quand tu te rends compte que toi aussi, tu es un humain, et donc je crois que c'est la première de relativiser pour pardonner les autres. Et puis je crois aussi que quand on est perdant, quand on reste longtemps dans l'amertume, ça nous prive d'une certaine liberté parce qu'on est piégé, comme j'avais dit dans ma pensée, quand on reste dans l'amertume, quand on reste dans des blessures, des choses qui sont déjà passées. Et en restant là-dedans, ben, on fait juste ressasser ces choses-là. Il y a des gens qui ont des rancunes, là, mais qui datent de l'âge de la pierre taillée, là, qui datent de date. Là. Et vraiment, il faut move on, il faut passer à autre chose. Mm-hmm. Et aussi, je crois que quand on pardonne rapidement, on est en mesure des fois de récupérer des relations qui on aurait perdu en fait. Il y a des relations qui sont précieuses et qui doivent être restaurées, qu'on doit garder. Je pense à des membres de famille, je pense à des frères, des sœurs, même dans un mariage ou même une amitié. Peut-être la personne elle a pas bien agi ou elle a manqué de tact ou elle a dit quelque chose qui t'a pas plu. Mais au lieu de la pardonner, de garder la rancune et de séparer cette relation, quand on pardonne, bon, on peut restaurer cette relation. Et il y a des familles où est-ce que les frères et sœurs, ben ils se parlent qu'à Noël ou au jour de l'an. Ils sont des relations superficielles à des parents avec leurs enfants qui ont des relations superficielles, des familles de façade. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des manques de pardon.
C'est vrai.
Moi, je connaissais une dame. J'étais petite et ça m'avait vraiment marquée. Et elle me semblait très vieille. À l'époque, elle n'était peut-être pas si vieille que ça. Mais elle me semblait très, très vieille. Et on avait parlé des Allemands. J'avais parlé des Allemands. Et elle était assise sur son canapé. Et puis là, elle a commencé à parler des Allemands, mais avec une telle colère, une telle haine, et j'ai l'impression qu'on revivait la guerre tous ensemble. Et je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend? Et sa fille me dit parle pas des Allemands à côté d'elle parce qu'à chaque fois ça la fâche. Mais ça faisait des années et des années, et c'est vrai qu'elle avait connu une partie de la guerre étant plus jeune, mais elle n'avait jamais pardonné aux Allemands, mais aux Allemands encore,
à tous les Allemands,
oui, et à tout ce qui avait un rapport avec l'Allemagne. Elle avait une haine et une rancœur, une amertume, et je me disais, Et de mon jeune âge, je trouvais ça très choquant de voir une dame qui avait passé de longues années à ressasser tous ces événements, qui n'avait pas réussi à pardonner, de voir que la haine non seulement avait même augmenté au fur et à mesure des années. Puis en plus, bah, tu vas en parler de ça dans ton flashback. Non, pas d'elle. Mais en fait, je trouvais ça très choquant et très triste. Mmh. Et j'étais pas sauvée, j'étais rien du tout, j'avais pas du tout conscience que Jésus avait dit de pardonner, etc. Mais quand tu
déjà dis, là, ça te choquait.
Hein. Oui. Mmh. Puis en fait, elle s'est fait voler une grande partie de sa vie, une grande partie de sa joie, cette femme, parce qu'elle a décidé de rester dans cette haine. Mmh.
Puis de sa santé, parce que on le dit, c'est vrai que ça joue. Mm. Le pardon nous fait du bien, hein, tu disais, mais le non-pardon nous fait beaucoup de mal.
Ah oui.
Et même c'est prouvé maintenant, hein, physiologiquement, oui. On a des gros troubles de santé à cause du non-pardon. Hein. Ça vient s'enquister dans notre corps, et puis on développe même des maladies à cause du non-pardon. Il y a des gens qui tombent malades et peut-être qui se privent. Tu disais cette dame. Moi, je connais une voisine pareille qui était. Elle avait vu. Elle était dans une ferme pendant la guerre. Les Allemands avaient débarqué et ils avaient tué son père et tous ses frères. Et elle était restée seule avec sa mère. Et alors elle, les Allemands, c'est pareil, il ne fallait pas lui en parler. Mmh. Et en fait, elle est morte très jeune, cette femme, peut-être à 70 ans, 68 ans, ce qui est jeune.
Oui. Mmh.
Et je suis certaine que si elle avait réussi à se dégager de ce fardeau de haine, elle serait morte bien plus tard.
Ben, c'est sûr, ça nous ronge de l'intérieur.
Ça nous ronge de l'intérieur, le non-pardon. Ouais.
J'ai une citation aujourd'hui du pasteur Alberto Carbone, qu'on connaît bien à MCI, qui a dit... Pourquoi on ne pardonne pas? Parce qu'on veut que la personne qui nous a fait souffrir souffre comme nous. On se fait juge de cette personne. Nous avons peur que si nous lui pardonnons, elle échappe à cette souffrance. Cela est humain. Autrement dit, cela est charnel. Cela est humain, c'est une jolie façon de dire. Mais c'est vrai que c'est un vrai danger de se faire juge de la personne quand on refuse de pardonner. C'est un vrai problème, et parce qu'en fait, on se met au-dessus de la justice divine. Mmh. Donc ça veut dire qu'on dit à Dieu, moi je crois pas que tu vas pouvoir me faire justice dans cette situation, je crois pas que ta justice soit suffisante pour régler les choses dans cette situation, que ce soit dans ce temps précis, présent ou plus tard. Et donc en fait, on dit, moi je vais exercer un jugement en gardant cette amertume dans mon cœur pour que cette personne soit sous une condamnation, parce que toi, Seigneur, peut-être que tu vas oublier finalement d'accomplir ton jugement. C'est un peu ça, hein. C'est un peu tiré par les cheveux ce que je dis, mais finalement, c'est ce que ça...
Fais-tu bien de t'irriter, Jonas?
Voilà, exactement. On devrait poser la question à Jonas. Tiens. Mais dans toute cette histoire, on parle du pardon, mais Nadine, comment on fait finalement pour pardonner, pour passer à l'acte? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et disent, ok, je veux bien pardonner, mais par où je commence? Comment je fais?
Mais je crois qu'il faut se laisser remplir par l'amour de Dieu. C'est Paul qui dit dans Corinthiens que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et comme tu dis, c'est que la réflexion humaine, je dirais même que influencée par l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'on doit se faire justice soi-même, parce que l'ennemi veut qu'on reste dans le non-pardon. Mmh. Il veut qu'on reste dans l'amertume, parce qu'il sait que ça va nous priver de la grâce de Dieu. Il veut nous faire croire que si on pardonne, c'est qu'on est stupide, c'est qu'on en demande encore, c'est qu'on est faible. Mmh. Mais c'est que la personne qui est forte, c'est celle-là qui pardonne. Et c'est vraiment important de se laisser remplir par l'amour de Dieu pour passer par certaines choses. Parce qu'il y a des choses, tu peux comprendre l'importance de pardonner intellectuellement. Tu le comprends que oui, Dieu demande que si vous pardonnez, je vous pardonnerai. Tu comprends tout ça. Mais ça, la force, tu ne l'as pas. Mais c'est l'amour qui va remplir dans ton cœur, qui va te faire même voir la personne qui t'a offensé comme aussi étant une personne qui est blessée, comme étant une personne qui souffre, qui va te faire voir que peut-être la guerre qu'il y a eu, moi, par exemple, mon pays de natal, c'est le Congo, il y a de la guerre, il y a des personnes que leurs familles sont massacrées, mais te faire comprendre que il y a la main de l'ennemi derrière tout ça. La personne, oui, c'est peut-être elle vient d'un certain groupe ethnique, mais c'est pas tous les gens de ce groupe ethnique-là qui sont mauvais. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est l'amour de Dieu qui va faire le travail en nous. Mmh. Et la deuxième chose, je crois qu'il faut nourrir ses pensées, de bienveillance. Et ce que je vais dire par là, c'est que quand quelqu'un nous a blessés, là je parle pas des guerres et puis des viols, des choses vraiment graves, je parle de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Quand quelqu'un nous a blessés, on repense à ça, on se nourrit de ça, et puis on met cette personne dans cette boîte-là, et on attribue d'autres choses dans notre vie par rapport à l'événement d'avec cette personne-là. Mm-hmm. Donc exemple, ton père n'a pas pu prendre soin de toi, il n'a pas payé tes études, ben aujourd'hui si je vais nulle part dans la vie, c'est parce que mon père n'avait pas fait. Ta meilleure amie t'a trahi, ben aujourd'hui, si je suis malheureuse, c'est parce que ma meilleure amie m'a trahi. Mm-hmm. Tu avances pas au travail, ton boss, ton employeur ne t'aime pas ou tes collègues te bloquent, ben je peux rien faire si je prospère pas, c'est à cause d'eux. Mm. Mais les pensées bienveillantes, c'est de dire, Seigneur, c'est toi qui es mon employeur, c'est toi qui prends soin de moi. Tu vas m'ouvrir les portes. Si eux, ils me bloquent, toi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Toi, tu ouvres mes portes. Si ma meilleure amie m'a trahi, toi, tu es mon ami. Mon bonheur n'est pas dans la main de quelqu'un. C'est pas dans l'attitude de ma femme ou de mon mari, de ma meilleure amie, de mes parents. C'est en toi. Mon identité est en toi. Si mon père n'a pas pu prendre soin de moi, ma mère n'a pas pu prendre soin de moi, toi, tu prends soin de moi. Et vraiment, c'est ça, nourrir ses pensées de bienveillance, c'est de vraiment faire l'exercice de déclarer ces choses. Parce que ce serait trop facile que de se fixer là-dessus. Et tu vois des gens qui perdent du temps dans leur vie. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Non, ma mère m'avait dit, ouais, mais ça fait 5 ans. Ok, puis oui, Hélène.
On cherche un coupable.
On cherche un coupable et on perd du temps. Mm-hmm. Et c'est vraiment important de faire cet exercice-là pour passer par-dessus et pour pardonner et relativiser certaines choses.
Et Anne, on va voir que le pardon, dans certains moments, ne peut être très difficile, mais quand il est accordé, il fait beaucoup de bien, et pas juste à une personne, mais tout autour, à des milliers de personnes en l'occurrence. On va en parler dans la rubrique Flashback. Donc Anne, aujourd'hui, comme tu nous l'as dit en introduction, tu vas nous parler de Corrie Ten Boom et de toute sa famille. Mm-hmm. Ten Boom, faut le prononcer.
Ten Boom.
Ten Boom. C'est pas Boom comme une explosion.
Non, c'est pas Boom, c'est Boom.
C'est Boom parce que ce sont des Hollandais, c'est
des Hollandais, exactement. Oui, je vais vous raconter en fait Corrie et Betsy, sa grande sœur Betsy. On connaît beaucoup plus Corrie. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui ont lu sa biographie. Et l'épisode que je vais vous raconter commence en 1940. Quand la guerre va éclater, la Seconde Guerre mondiale. Et Corrie et sa sœur habitent dans une ville qui s'appelle Haarlem, au nord de la Hollande. Et elles habitent là au mois de mai 1940, quand les Allemands passent la frontière et envahissent la Hollande. Et elles sont filles d'horlogers. Leur papa est horloger, leur grand-père était horloger, leur arrière-grand-père était horloger. C'est une famille d'horlogers réputée à Haarlem. Donc là, on voit la famille Ten Boom avec papa, maman et les 4 enfants. Corrie, c'est celle qui est à droite. Et Betsy, ça doit être celle de gauche complètement, voilà. Et donc la maman est morte avant la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir du moment où, dans mon histoire, il n'y a plus la maman.
D'accord.
Voilà. On va voir aussi les parents de Corrie. Donc c'est une famille qui est très pieuse, c'est une famille luthérienne. Très très pieuse, qui a mis vraiment Jésus au centre de sa vie familiale et qui, tous les matins à 8h30, dans la boutique de l'horloger, tiennent une étude biblique et temps de prière pour tous ceux qui veulent, la famille, les apprentis, les employés, les voisins, pour tous ceux qui veulent. C'est des gens qui sont très impliqués aussi dans la vie communautaire. Corrie fait une classe d'études bibliques pour les petites filles trisomiques.
Ah oui.
Donc toutes les semaines, elle les réunit, puis elle leur parle de Jésus, elle prie avec. Donc c'est des gens qui sont bien connus, réputés et honorés dans Haarlem. Et juste avant l'invasion allemande, le frère Wilhelm, qu'on a vu tout à l'heure, le seul fils de la famille, avait commencé déjà à organiser un refuge pour les Juifs parce qu'il avait étudié en Allemagne, il avait vu que ça commençait à sentir le roussi, il avait vraiment vu l'ambiance se transformer et il avait fait un refuge pour les Juifs. Donc avant même que les Allemands envahissent, il y avait déjà un afflux de gens qui venaient d'Allemagne, des Juifs, qui venaient de plus en plus nombreux pour se réfugier en Hollande et pour fuir le nazisme. Et quand les nazis ont envahi la Hollande en mai 40, Wilhelm était déjà bien impliqué dans la protection des Juifs. Et les deux sœurs Ten Boom, donc celles dont je vous parle aujourd'hui, Corrie et Betsy, ont commencé déjà par connaissance, elles connaissaient la moitié de Haarlem, elles connaissaient quasiment tout le monde, et elles ont commencé à faire passer un bébé juif en lieu sûr. Ensuite, c'était un professeur d'université allemand. Elles ont réussi à le faire passer aussi. On va voir Corrie Ten Boom jeune, là, si vous voulez, en régie, s'il vous plaît. Donc, elles ont commencé à faire passer des personnes, mais de manière un peu anarchique, sans vraiment organisation. Uh-huh. Et quand leur frère a su ça, il a dit, attention, là, vous touchez à quelque chose de très dangereux. Moi, j'ai des contacts avec des réseaux de résistance et on va vous aider à vous organiser. Donc, quelqu'un est venu dans leur maison. C'est une grande maison. On va voir la photo, d'ailleurs. Je pense qu'on a la photo de la maison. Voilà, c'est une maison typique hollandaise, tout en hauteur. Donc, il y a la boutique d'horlogerie. Maintenant, c'est le musée Ten Boom. Donc, c'était la boutique au rez-de-chaussée. Et au-dessus, il y avait quand même pas mal de places. Il y avait 11 pièces.
Ah oui.
11 chambres en tout. Et donc, elles avaient tout pour recueillir du monde. Alors, quelqu'un est venu et a organisé dans la chambre la plus élevée un coin qui va s'appeler La Cachette, qui a donné le titre d'ailleurs au livre, hein, The Hiding Place. Donc cette fameuse cachette, donc des gens sont arrivés avec des briques cachées dans une grosse horloge. Ils sont arrivés avec de la peinture cachée dans des bouteilles de lait, tout pour camoufler qu'ils étaient en train de faire des travaux dans la maison. Et ils ont fait une cachette bien invisible, vraiment, depuis la chambre du haut. Et ils ont commencé à chronométrer combien de temps il faudrait une fois qu'on a lancé l'alerte que quelqu'un arrive ou une descente de la Gestapo. Donc, elles avaient calculé qu'une personne seule mettrait 47 secondes pour aller se mettre à l'abri. Et s'ils étaient en train de manger, le temps de tout ramasser, les assiettes, puis ça allait même dans les détails, changer la soupe de bol pour montrer qu'il n'y avait pas autant de soupe que ça.
Mais oui.
Tout le monde emporte son assiette, ou qu'on remet tout. Ils avaient donné 1 minute 15. Donc, ils se sont entraînés, poussés comme les Jeux Olympiques pour arriver à faire tout ça en 1 minute 15.
Ça devait être intense quand même, ils donnent de leur personne, là. Ouais. Ils se mettent en danger volontairement.
Ils se mettent en danger, puis d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quelques temps après qu'ils aient commencé, ils en ont fait une bonne partie de la guerre quand même. Ils ont passé plus d'une centaine de personnes par leur maison. Mais un jour, il y a un homme qui s'est présenté en disant « Ma femme, mon épouse est juive, elle vient d'être arrêtée. Est-ce que vous pourriez me prêter les 600 guilds qu'il me faut pour payer un policier qui va arranger l'affaire ?» En fait, c'était un piège. Et la Gestapo fait une descente et ils arrêtent le papa, les deux filles et les deux neveux, je crois, et puis deux personnes qui se trouvaient là. En tout cas, ils étaient 6 personnes. Et au moment où ils les embarquent, l'officier allemand dit au père Tenbaum « Alors, c'est ça, vous êtes 6 ?» Et lui, répond « Non, monsieur, nous sommes 7. Dieu est avec nous. Alors, les femmes et les hommes sont séparés. Donc, c'est la dernière fois qu'elles vont voir leur père vivant. Il approchait les 80 ans, d'ailleurs, à cette époque-là. Et il va d'ailleurs mourir 10 jours après, en détention. Donc, les femmes et les hommes sont mis en prison séparément. Corrie et sa sœur sont envoyées dans un premier camp à Groningen, je crois. Et peu de temps après, elles sont transportées en train vers le camp de Ravensbrück. Et elles étaient séparées. Corrie est restée 3 mois en confinement absolu. Donc, elle voyait absolument personne, sauf la fille qui faisait passer les plats. Et justement, cette fille qui s'appelle Mine, qu'elle va retrouver ensuite au camp de Ravensbrück, c'est une co-détenue, mais qui était chargée de passer la nourriture. Et elle faisait du trafic dans la prison. Tu pouvais obtenir pour tant et tant ce que tu voulais. Et elle lui propose de la soupe, du pain, en plus de sa ration. Elle lui dit non, je voudrais une Bible. Donc Mine arrive à lui faire rentrer dans la prison une Bible. Et cette petite Bible, elle va faire un long chemin parce qu'elle va leur servir pendant tout leur périple triste vers Ravensbrück, le camp de concentration. Puis cette Bible va beaucoup servir à toucher beaucoup de monde. Pourtant, elle était vraiment petite. Donc, elles sont déportées. Et là, sur le quai de gare, elles se retrouvent. Ça faisait plusieurs mois qu'elles ne s'étaient pas vues. Donc là, c'était un premier miracle. Elles arrivent à Ravensbrück ensemble. Et là, dans la file d'attente, elles voient que, en fait, les gens qui font, entre guillemets, l'accueil, leur confisquent toutes leurs affaires et les font se déshabiller. Donc, elles demandent à un soldat qui est là si elles peuvent aller aux toilettes. Il les envoie dans une pièce contiguë. Et là, elle cache la Bible dans un linge qu'elle cache une pile de bancs moisis. Elle cache la Bible là. Elles reviennent ensuite pour donner leurs affaires qui restaient. Et après la douche, elles retournent rechercher la Bible. Et Corrie arrive à la cacher sous sa petite robe. Mais elle disait que c'est une petite robe en coton fin et qu'on la voyait, la Bible. Donc, elles subissent une première fouille. Et les soldats fouillent les femmes vraiment devant, derrière, sur les côtés. Et la fille devant est fouillée 3 fois. Sa sœur derrière est fouillée et elle, il l'oublie. Donc elle passe avec sa Bible, déjà le premier obstacle. Et elle avait passé aussi non seulement sa Bible, mais aussi une petite bouteille de médicaments parce que sa sœur était malade, elle toussait beaucoup. Donc elle arrive à passer les 2 trucs à la douane du camp. Ouais. Et là, ils arrivent à un deuxième poste de contrôle. Là, c'était des femmes capots, gardiennes, qui les fouillent encore. Mais arrivée à elle, elle dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous ralentissez la file, dépêchez-vous !» Et hop, elle passe encore avec sa Bible et sa fiole de petits médicaments.
Waouh.
Donc là,
Dieu était avec elle.
Dieu était vraiment avec elle. Et d'ailleurs, Corrie a dit « Nous n'étions pas pauvres, nous venions d'expérimenter vraiment la puissance de Dieu dans la protection. » Alors, c'était dur, la vie à Ravensbrück, vous vous en doutez. Levé le matin à 4 heures du matin, 7 jours semaine, ils travaillaient très fort. Et ils avaient pour seule nourriture une demi-livre de pain et un demi-litre de soupe. Et puis, c'était de la soupe très claire, immangeable.
C'est de l'eau, quoi.
C'est ça. Donc, Corrie raconte qu'il y avait tellement de détresse et de souffrance dans ce lieu qu'elle a vraiment compris que c'était Dieu qui avait permis qu'elle soit envoyée là pour amener de la consolation et d'une exhortation à toutes ces pauvres femmes. Elles étaient là comme des lumières, Betsy et elle, au milieu des ténèbres. Et chaque soir, après une journée de travail, vous vous en doutez, harassante, elles se réunissaient dans le dortoir du fond, qui, bizarrement, n'était pas surveillé. Toutes les pièces étaient surveillées, la pièce centrale, elles étaient 400 dans le baraquement, la pièce centrale était surveillée. En tout, elles étaient, je crois, 36 000 sur tout le camp. Mmh. Donc, c'était énorme.
C'est une folie.
Ouais. Et donc, elles étaient 400 dans leur petit baraquement. Et dans le dortoir du fond, il n'y avait jamais de garde. Puis, vous allez comprendre pourquoi après. Mmh. Et donc, elles lisaient la Bible, elles priaient, elles chantaient. Et chaque soir, le petit cercle grossissait, grossissait, grossissait. Et elles s'accrochaient à la parole de Dieu. Et surtout à Romains 8, 35, qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Hein, serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution ? Et Dieu sait qu'elles étaient dedans. Le dénuement, le danger, et au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et vous connaissez la fin du verset 38 qui dit « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu ».
Amen.
Alors, Betsy était vraiment une femme de prière. Corrie était une fille plus d'action, et Betsy, c'était vraiment une fille réfléchie, posée, de prière. Et Betsy passait toute sa journée en prière. Et tout en travaillant, elle priait. Et dans un moment difficile, sur le chantier, elle s'écrit, ben, Corrie, mais c'était quoi déjà ce passage de la Bible qu'on a lu ce matin? Et Corrie, donc, sur le chantier, surveillée par les gardiens, sort sa petite Bible discrètement. Et c'était 1 Thessaloniciens 5 qui dit, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde, blablabla, priez sans cesse et surtout rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est ça, Corrie, c'est la réponse de Dieu pour nous. Rendez grâce en toutes circonstances. Puis vous doutez bien qu'il y avait de la boue, des femmes décharnées, qui pleuraient, qui toussaient, qui étaient battues. Donc Corrie la regarde interloquée, lui dit « Ah ouais ? Et de quoi exactement on doit rendre grâce ?» Et Betsy lui répond « Eh bien, déjà d'avoir été assignée ici ensemble, de pouvoir tenir la main de ma petite sœur tous les jours, pour la petite Bible qu'on a pu miraculeusement passer, pour toutes les femmes qui vont rencontrer Jésus ici à la lecture de toutes ces pages. Merci aussi parce qu'on est tellement serré que dans les baraquements que beaucoup de femmes peuvent entendre nos lectures et nos prières. » Et elle poursuit « Et puis merci pour les puces !» Et Corrie la coupe agacée en disant « Mais Betsy, voyons, on peut pas rendre grâce à Dieu pour des puces ?» Et Betsy lui réexplique « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Alors les puces font partie de cet endroit où Dieu nous a placés, alors on lui rend grâce aussi pour cela. Et quand je vous disais tout à l'heure que le dortoir, c'était bizarre, que personne n'ait jamais gardé le dortoir, c'est que le dortoir était plein de puces.
Okay.
Et les gardiens voulaient pas attraper de puces.
Ah bah oui, bah merci pour les puces.
Alors merci pour les puces.
C'est vrai.
Et donc plus tard, bien plus tard, Corrie a compris en fait l'histoire des puces.
Oh.
Et c'était, oui, un sujet d'action de grâce qu'il y ait des puces, parce que grâce à ça, elle pouvait tenir chaque jour une réunion de prière. Alors, c'est les miracles au quotidien. Hein. Il y avait cette fameuse petite fiole dont je vous parlais. Elle commençait à soigner sa sœur, mais il y avait une vingtaine de femmes qui avaient besoin aussi. Donc, Corrie, qui était généreuse, donnait le médicament. Mais c'est une petite fiole, mais elle se vidait jamais.
Oh.
Alors, un jour, elle dit ça à sa sœur. Elle dit, mais c'est comme la veuve de Sarepta dans le Livre des Rois.
Oui.
Se vide jamais. Puis un jour, la fameuse mine de tout à l'heure avait été affectée, elle était aussi à Ravensbrück, cette détenue-là, et elle a fait passer depuis l'infirmerie des vitamines. Et ce jour-là, la bouteille s'est tarie.
Ah oui ?
Ouais, juste le jour où mine leur a apporté
des vitamines
pour remplacer, et ça s'est tari. Alors on voit que Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre, et il fait jamais doublon. Alors c'est ça, je vous disais que Betsy, c'était une femme exceptionnelle, une femme de prière, et par contre elle était fragile, elle avait déjà je crois 52 ou 53 ans quand elle a été enfermée, même 55 même. Et donc son état se dégrade, elle tousse beaucoup, il fait froid, elles sont toujours les pieds dans la boue, elle travaille de longues heures. Et donc, elle se retrouve à l'hôpital Et rapidement, elle se relève et elle est affectée au tricotage de chaussettes. Et là, elle parle aux femmes de Jésus tous les jours en tricotant les chaussettes. Elle évangélise tout l'atelier. Et même à l'hôpital, elle évangélise tout le monde. Elle parle à tout le monde de Dieu. Elle va exhorter, mais de un à un. Mm-hmm. Et dans la discrétion. C'est pour ça que je vous disais, ces deux femmes exceptionnelles. Corrie, ça a été la femme qu'on connaît, qui est médiatisée, qui a beaucoup prêché jusque dans les années, début des années 80. Betsy, c'est une femme qui a été discrète, mais qui a fait énormément de travail pour le Seigneur dans ce camp de Ravensbrück. Et elle a été vraiment un modèle de foi et de courage. Mm-hmm. Alors, un autre exemple, c'est dans ce dortoir, il y avait tout le temps des bagarres qui éclataient. Les femmes étaient à bout de nerfs, elles étaient surpeuplées. À un moment donné, elles avaient commencé à 400, elles se sont retrouvées 1400. Mm-hmm. Parce qu'ils rajoutaient toujours des gens qui arrivaient de toute l'Europe. Et elles se sont retrouvées des fois à 9 sur un matelas.
C'est pas vrai.
Donc, elles dormaient dans le sens dans de la largeur. Mm-hmm. En tout cas, c'était terrible. Et il y avait des bagarres qui éclataient. Et Betsy, un jour, a prié. Elle a dit « Oh Seigneur, envoie ta paix dans cet endroit. » On a trop peu prié, d'ailleurs, dans cet endroit. Les murs le savent. Mais là où tu viens, Seigneur, l'esprit de dispute ne peut pas subsister. Mmh. Et après cette prière, elle entend déjà deux femmes qui étaient en train, littéralement, de s'écharper, en train de dire « Bon, ben finalement, tu peux dormir ici, où il fait plus chaud. Moi, je vais prendre la place près de la fenêtre. » Puis l'atmosphère se détend dans tout le baraquement. Wow, mais... Et elle dit « C'était rigolo, parce que les femmes, ensuite, sont restées très polies pendant longtemps, après, disant « Merci, s'il vous plaît, non, s'il te plaît, vas-y, non, je n'en ferai rien. » Et wow. L'atmosphère a été bouleversée dans ce baraquement grâce à la prière de Betsy. Mmh. Corrie disait « Je ne comprenais pas le pourquoi de la souffrance des autres, mais je savais quant à moi que si je souffrais en ce lieu, Dieu n'y était pas indifférent, car lui-même m'avait conduite ici dans un but précis. Je devais montrer le chemin à ceux qui allaient mourir. » Alors, Betsy et Corrie sont courageuses, elles tiennent le bout, mais finalement, Betsy, on arrive là en décembre 44, elle meurt d'épuisement, elle a fait son travail, le Seigneur la reprend. Elle a amené beaucoup de gens au Seigneur, elle est partie dans la paix, et Corrie est libérée 12 jours plus tard. Uh-huh. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Betsy avait prophétisé qu'elle serait libérée les deux, elle ne serait plus dans le camp avant le premier de l'an.
C'est vrai.
Betsy est retournée auprès de son sauveur, et puis Corrie est sortie sur une erreur. Mmh. Il y a eu une erreur, et ça, elle l'a su en 59 quand elle est revenue à Ravensbrück. Il y a eu une erreur administrative, donc elle a été libérée par erreur. Et elle a su aussi qu'une semaine après sa sortie, toutes les femmes de sa classe d'âge du camp avaient été gazées.
Oh. Donc, Dieu a épargné sa vie.
Dieu a épargné sa vie parce qu'il avait encore beaucoup de travail à lui faire faire.
Oui.
Alors, elle est retournée chez elle. Elle a ouvert un centre de réhabilitation pour les survivants des camps de concentration. Elle a aussi beaucoup caché et elle s'est occupée à la fin de la guerre. Donc, là, on est en décembre 44, donc la fin de la guerre arrive vite.
Oui.
Elle a caché des handicapés mentaux qui étaient poursuivis par les nazis. Hein, ils les tuaient systématiquement. Mmh. Donc, elle en a caché pas mal. Et elle a fait beaucoup de bien. Mais ce qu'on connaît plus d'elle, c'est cet événement que vous avez peut-être déjà entendu. En 47, elle retourne, elle va à Munich prêcher, apporter vraiment un message pour témoigner du pardon de Dieu. Et puis elle conclut son message en disant « Quand nous confessons nos péchés, Dieu les jette au plus profond de l'océan où ils disparaissent pour toujours. » Puis à la fin de la réunion, il y a un homme qui s'approche d'elle en tenant son chapeau à la main. Et là, elle le reconnaît. C'était le gardien de Ravensbrück qui était à l'accueil et qui les avait fait déshabiller. Mmh. Et elle avait été tellement humiliée qu'elle se souvenait très bien de ce gars-là. Et on va pouvoir voir d'ailleurs son image. Et là, il lui dit, mademoiselle, qu'il est bon de savoir, comme vous l'avez si bien exprimé, que nos péchés sont au fond de la mer. Vous avez mentionné Ravensbrück, j'ai été gardien là-bas. Depuis, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les cruautés que j'ai commises, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche, mademoiselle. Voulez-vous me pardonner ? Et il ne l'avait pas reconnue, mais elle l'avait reconnue. Alors Corrie, elle est déchirée intérieurement, elle revoit sa sœur à l'agonie, elle revoit les femmes battues, elle revoit toutes les atrocités du camp de Ravensbrück. Il y a eu quand même 96 000 morts dans ce camp-là. Pendant la guerre, c'est pas rien. Et il en était un des acteurs de ces atrocités-là. Et elle se dit, mais comment pardonnerais-je ? Je ne pouvais pas m'y soustraire, je le savais. Le message du pardon de Dieu comporte une clause primordiale. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, dit Jésus, mon Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Alors, elle finit par prendre cette main qu'il lui tend. Et ça a été vraiment, d'ailleurs, le centre de son témoignage, hein, de son message de pardon. Mm-hmm. Elle a prêché dans plus de 60 pays dans le monde entier jusqu'à sa mort en 83. Elle est morte à 91 ans. Donc Dieu l'a rassasiée de jours. Amen. Où elle a vraiment témoigné du pardon de Dieu. et de la force qu'il y a dans le fait de pardonner l'impardonnable.
Oui.
Parce que là, c'était vraiment l'impardonnable qui était à pardonner. Et donc, elle a écrit plusieurs livres qui sont très intéressants. Il y a celui sur lequel j'ai basé ma rubrique qui s'appelle, en français, je sais pas, c'est The Hiding Place en anglais, mais c'est La Cachette. Je crois que c'est peut-être Dieu en enfer. Je connais pas le titre en français. En tout cas, on pourra le trouver. Et Victoire à Ravensbrück, elle a aussi écrit. Donc, c'est ça. Elle a eu un grand ministère. D'ailleurs, ça fait peu de temps, on avait parlé de Frère André.
Oui.
Et elle a été pas mal en tournée avec Frère André. Ils ont prêché ensemble.
Oui, tu l'avais dit.
Ouais. Mmh. C'était, ils sont tous les deux hollandais. Et puis, lui était plus jeune qu'elle, d'ailleurs, mais elle était amie avec et ils ont prêché dans pas mal de lieux. Donc c'est ça, c'est une famille exemplaire. Puis on est dans une génération où on pense que réussir sa vie chrétienne, c'est avoir un grand rayonnement et influencer beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais en lisant cette histoire, je me suis dit, on connaît Corrie, elle a été publicisée, mais sa sœur, Betsy, elle a été le pilier de foi de ce baraquement, et même le pilier de foi pour sa sœur, parce qu'elle a beaucoup encouragé Corrie dans le camp. Elle a été un pilier d'exhortation, elle a été un témoin de Jésus-Christ. Betsy, elle a fait un travail fabuleux dans sa faiblesse, en toute discrétion et en toute douceur. Mais je suis certaine qu'au ciel, elle aura une récompense bien plus grande que des gens très médiatiques.
C'est vrai.
Et c'est une question de génération, je pense, mais à cette époque-là, on voyait pas les choses comme ça. Mm. Et Betsy, c'était une femme de Dieu extraordinaire.
Amen.
Et Corrie aussi, mais j'ai une faiblesse vraiment pour Betsy. En lisant leur histoire, j'ai dit, quel modèle pour nous, femmes chrétiennes et même les hommes.
Mm. Wow, merci beaucoup Anne pour ce beau travail de recherche. Vous connaissiez l'histoire de Corrie et Betsy ? Annabelle, toi, je sais que tu le connaissais. Ouais. Ah, tu l'as vu avec moi, je me souvenais plus. C'est ça, il y a un film qui raconte leur histoire. C'est un très vieux film.
Années 70, peut-être.
Oui, c'est ça, qui a été fait en hollandais et qui est traduit en français, mais c'est pas super bien traduit. Mais honnêtement, moi, je suis passée par-dessus la mauvaise qualité de l'image et du son, tellement l'histoire est forte.
Il n'y a pas tous les détails. Il y a même des trucs qui ne sont pas tout à fait justes dedans. Mais
comme
ça donne quand même un bon...
dans les films.
Une bonne idée.
Mais c'est une histoire vraiment très belle et très encourageante. Et je pense que si Corrie a pu pardonner de telles atrocités qui se sont produites là-bas, où elle a perdu quand même pratiquement toute sa famille à cause de ça, je pense qu'on peut pardonner peu importe ce qu'on nous a fait, au plus grave du plus grave, on peut pardonner. Et comme elle l'a dit à ce militaire, le pardon n'est pas une option, c'est une clause non négociable. Ouais. Et c'est tellement important de comprendre ça. On doit se libérer. On doit libérer ceux qui nous ont offensés aussi. Les libérer non pas pour leur dire c'est pas grave, mais les libérer pour que le jugement de Dieu fasse son œuvre.
Mais je pense qu'il faudrait rajouter aussi que pendant tout le temps où elles étaient dans ces réunions de prière, Betsy priait quasiment tous les jours pour les soldats allemands, les gardiens allemands et les gardiennes allemandes. Ces seigneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur.
Wow.
Et Dieu l'a fait. Et je suis certaine que c'est la réponse de Dieu à cette prière quand elle a rencontré ce soldat allemand. Parce que c'était vraiment l'accomplissement de la prière de Betsy.
Vraiment, qui lui-même avait rencontré le Seigneur.
Ouais.
Très, très belle histoire, vraiment magnifique. Et je suis sûre qu'il y a plein de témoignages qu'on ne connaît pas, de pardons comme ça, extraordinaires, qui se sont produits. Donc, vous avez entendu toute cette émission. Peut-être pour certains d'entre vous, ça a appuyé le doigt là où ça fait mal. Mais c'était une nécessité. Et vraiment, quand pardonner devient une nécessité, je pense que là, vous y êtes arrivés. La nécessité de pardonner est en face de vous. Vous pouvez choisir de prendre la bonne décision aujourd'hui. Pardonner, c'est relâcher. Relâcher simplement toutes ces souffrances que vous avez gardées en vous pendant toutes ces années. Tourner la page, ça ne veut pas dire oublier, mais tourner la page, passer à autre chose, vous libérer et commencer à pouvoir mener votre vie en toute liberté avec le Seigneur et à pouvoir porter le fruit que Dieu veut que vous puissiez porter. Donc, je vous encourage vraiment à prendre la bonne décision. Pardonnez, s'il vous plaît. Faites-le pour vous-même au moins. Et demain, on va se retrouver avec un thème qui nous parle de l'épreuve. « Change ton regard sur l'épreuve » sera notre thème du jour. Et nous aurons des invités qui viendront présenter leur album, le groupe Aozik. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.